Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. On s'intéresse au soleil aujourd'hui alors que les vacances s'approchent. Pour ne pas bronzer, ni idiot ni imprudent, on vous dira tout sur les UVA, B et C, sur ce capital soleil qui, contrairement à ce qu'on peut croire, ne se reconstitue pas, sur les indices de protection des crèmes, leur efficacité, les bienfaits et les méfaits du soleil. Et puis on se demandera aussi comment nous avons pu passer de 2 siècles de peau blanche et laiteuse à la mode du cuivré caramel, sous le soleil exactement, mais pas n'importe comment. Nous attendons toutes vos questions et vos réactions 01 45 24 7000, sans oublier l'appli de France Inter et la page Facebook de l'émission. Au menu de Grand Bien vous fasse également la chronique de Baptiste Beaulieu, médecin et romancier. Bonjour Baptiste.
Bonjour, bonjour Thomas.
Qu'est-ce que vous allez nous raconter ce matin ?
Écoutez, c'est la dernière chronique de l'année, Thomas. Je veux rendre hommage aux soignants en parlant de l'une d'entre eux.
Eh bien, ce sera tout à l'heure, vers 10h30, Grand Bien vous fasse. C'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter, Thomas Chauvineau, Grand Bien vous fasse.
Avec 3 invités pour évoquer le soleil aujourd'hui, Marie-Alette Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue au sein de l'unité dermatologie, vénérologie et cancérologie cutanée à l'hôpital de la Timone à Marseille. Aïdia Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
Professeur de philosophie, les auditeurs de Grand Bien vous fasse vous connaissent bien. Et Pascal Horry, bonjour.
Bonjour Thomas Chauvineau.
Historien, bonjour Pascal Horry, historien, spécialiste d'histoire contemporaine. Alors, le soleil brille pour tout le monde pareil, mais ses effets sont différents en fonction de chaque individu. Hein. Il y a un soleil, mais 1001 façons de le recevoir, Marie-Alette Richard.
Bien entendu, alors c'est clair qu'on est toujours très heureux quand l'été arrive, que la lumière est là, qu'on a la douce chaleur du soleil qu'on reçoit sur notre peau. Mais clairement, il faut faire attention parce que nous ne sommes pas égaux vis-à-vis du soleil et ceci dépend simplement déjà de nos caractéristiques génétiques et notre peau et notre pigmentation qui nous aident à nous adapter ou non aux expositions solaires.
Ça veut dire que certains sont plus sujets aux coups de soleil que d'autres ?
Bien sûr, puisque on a défini dans notre métier ce qu'on appelle les phototypes, qui sont une façon de classer un petit peu les peaux et leur capacité à se protéger ou non et à réagir ou non aux expositions solaires. Et les phototypes les plus clairs, qui sont des peaux qui ont tendance à brûler lorsqu'elles se mettent au soleil, qui sont souvent des peaux de roux, avec des yeux clairs, des cheveux clairs, bien entendu, n'ont aucune comparabilité dans leur moyen de protection naturelle vis-à-vis du soleil par rapport aux peaux qui ont les capacités de pigmentation les plus extrêmes, les peaux méditerranéennes, les peaux noires, qui, par définition, se sont adaptées, on va dire, à l'environnement et à l'exposition solaire, avec des caractéristiques pigmentaires totalement différentes et des produits dans la peau qui nous protègent du soleil, qui sont totalement différents dans leur composition, ce qu'on appelle la mélanine. Il y a donc des mélanines.
On va y revenir, hein, et on parlera notamment du fait que le bronzage, c'est une protection naturelle, finalement, aussi contre le rayonnement solaire. Mais Aïda, India, il a beau être à 150 millions de kilomètres, ce soleil, c'est un symbole de puissance.
Oui, de puissance, et puis même on pourrait dire de vérité. En fait, c'est vrai qu'en philosophie, quand on évoque le soleil, peut-être que la première chose à laquelle on pense, c'est l'allégorie de la caverne. Et dans l'allégorie de la caverne, en fait, le soleil représente d'ailleurs aussi un petit peu un danger, puisque les prisonniers qui sont dans la caverne et donc dans l'obscurité, et le prisonnier qui est amené à en sortir, dans un premier temps, ne peut pas justement sortir et se confronter à la lumière du soleil directement. Il doit faire tout un parcours et un apprentissage pour réussir à regarder le soleil dans les yeux, si je puis dire. Et donc le soleil symbolise dans cette allégorie, chez Platon, le bien, la vérité, le plus haut degré de réalité et de connaissance qu'on puisse avoir.
Pascal Horry, vous qui êtes historien, vous avez publié un livre sur l'histoire du bronzage, l'invention du bronzage, essai d'une histoire culturelle. Et c'est justement ce que vous expliquez la thèse du livre, c'est que le bronzage, ça a été une révolution culturelle.
Ah oui, ce n'est pas un mot excessif, d'autant plus que ça s'est passé assez rapidement, je dirais en une décennie, les années 1920, on a basculé, il suffit de regarder la littérature à l'époque des soins de beauté, je m'étais plongé dans cette lecture-là tout à fait passionnante, ou les magazines féminins, de la phobie du soleil à son culte. Alors ça commence par les élites évidemment, mais ça descend assez vite vers les classes moyennes et les classes populaires, c'est impressionnant même.
Véritable révolution. Marie-Alette Richard, le bronzage, justement, puisqu'on parlait de philosophie, de c'est Icare hein, qui se fait brûler les ailes, mais nous autres mortels, on brûle pas nos ailes, mais en revanche, on a des coups de soleil quand on ne se protège pas avec le soleil. Et le bronzage, en revanche, lui, c'est une protection naturelle contre les rayonnements du soleil.
Tout à fait. Le problème, c'est que la protection, je vous le présentais tout à l'heure, n'est pas la même chez tout le monde. Les peaux les plus pigmentées, les plus mates, ont naturellement cette protection parce qu'ils ont des mélanines de bonne qualité, qui sont donc des pigments naturels produits par les cellules de la peau, qui sont capables de réfléchir, de chasser, d'empêcher l'arrivée dans la peau du rayonnement ultraviolet qui peut faire du mal à notre corps. Et c'est en particulier les UVB qui sont les plus agressifs. À l'inverse, les peaux les plus claires, qui ont des pigments mélaniques qu'on appelle les eumélanines, qui sont des pigments qui donnent les caractéristiques de notre peau, sont très peu capables de nous défendre contre les ultraviolets lorsqu'on a ces propriétés pigmentaires, voire même au contraire, lorsqu'on met ces pigments en face des ultraviolets, ben on peut créer des dommages au sein des cellules par nos propres pigments qui sont délétères parce qu'ils créent des espèces d'espèces réactives en oxygène, enfin des éléments qui en fait se retournent contre nous-mêmes. Donc clairement, le pigment n'est pas le même pour tout le monde et donc nous n'avons pas la même protection solaire.
Mais le bronzage peut fonctionner un peu comme la crème solaire aussi, c'est ça que vous nous expliquez, parce que vous dites que c'est
oui,
une protection.
Tout à fait, je pense que ça c'est la meilleure des crèmes solaires.
La plus efficace.
Ça renvoie les rayonnements ultraviolets, bien entendu.
Et pelé, c'est une réaction, je l'ai appris en me renseignant évidemment sur le sujet de l'émission, mais c'est une réaction de défense du corps pour réduire le risque des mutations qui pourraient notamment entraîner des cancers dus au soleil.
Alors, c'est un peu schématique, mais c'est vrai. Ce qu'il faut comprendre déjà, quand on s'expose au soleil, en dehors du fait que notre bronzage va nous protéger, la peau, et l'épiderme en particulier, a tendance à s'épaissir naturellement pendant l'été. Et donc, comme l'épaisseur de l'épiderme est plus importante, le chemin que doivent parcourir les ultraviolets dans la peau est plus important. Quand on est en fin d'été, la peau va peler parce que finalement, on retrouve une épaisseur de peau normale. Ça, c'est un premier système. Le deuxième système, c'est quand on prend un coup de soleil, la peau a été abîmée, l'érythème solaire aboutit aussi donc à une brûlure, et quand on a une brûlure superficielle, la réparation de la peau peut aboutir à la désquamation. Donc on a plusieurs éléments qui nous permettent de nous défendre et effectivement d'enlever les cellules mortes, les cellules abîmées. C'est une façon aussi de s'adapter au soleil.
Pascal Horry, dans les années 1970, malgré les risques qu'on connaît aujourd'hui et liés aux maladies qui peuvent être données par trop de soleil, dans les années 70, on pousse le culte du bronzage très loin. C'est même du grand n'importe quoi. Il y a la graisse à traire, l'huile d'olive, des cartons réfléchissants. Tout est bon quoi pour bronzer.
Oui, on est à l'apogée du mouvement, mais déjà la mode punk inverse culturellement les tendances dans une certaine avant-garde, puisque le goût du blafard revient. Mais c'est très intéressant d'écouter ce qui vient d'être dit de la dimension médicale, parce que les contemporains de la vogue du bronzage entendent déjà ce discours, moins sophistiqué qu'il ne l'est aujourd'hui, on connaissait moins quand même dans les détails les risques, mais on les connaissait. Il y a un discours sur le danger de cancer, etc. Ce qui est intéressant d'un point de vue culturel, c'est que la société de l'époque, donc disons pendant un demi-siècle, les années 20 jusqu'aux années 70, n'entend pas ce discours parce qu'elle a envie de changer. Parce que
pourtant, il est déjà là, vous dites.
Il est déjà là, bien sûr, il y a déjà un débat, mais on ne l'entend pas. Et puis surtout, ce que j'avais découvert en travaillant là-dessus, c'est que les agents essentiels de l'évolution sont des médecins tenant d'une médecine qu'on appellerait naturelle et qu'on appelle des naturistes à l'époque. Certains sont nudistes même, mais comme les deux frères médecins d'Urville, mais c'est naturisme au sens large, médecine naturelle. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit encore, c'est un peu obsolète, des bains de soleil, on oublie qu'en fait, on prenait le précédent de l'hydrothérapie. Il y avait une grande vogue de l'hydrothérapie à la fin du 19e, et on remplace hydro par hélio.
Hélio, oui.
Héliothérapie, ça fonctionne. Et le maître mot, c'est tuberculose. Parce qu'à chaque époque, sa maladie de référence. Après, on aura le cancer, on aura le sida. À l'époque, c'est la tuberculose. Et on croit, en fait, plutôt faussement, même si à la marge, c'est pas complètement inexact, on croit que le soleil va guérir de la tuberculose. Ça vous donne les préventoriums, les aériums, les solariums, etc.
Et Aïda Ndiaye, vous vouliez réagir?
Oui, je trouve ça très intéressant, cette histoire du bronzage dont parle Pascal Horry, parce que je trouve que ça montre en quoi est-ce que nos corps, en fait, sont vraiment traversés par tout un tas d'éléments qui construisent les normes esthétiques, notamment d'ailleurs, que ce soit, donc comme on l'a dit, en fait, l'évolution de la médecine, le rapport au travail aussi, puisque bon, on voit bien que la valorisation ou pas du bronzage va dépendre aussi de la valorisation ou pas du travail à l'extérieur. Le rapport à la nature, comme vient de le dire Pascal Horry. Donc, je trouve que c'est un assez bel exemple de en quoi est-ce que ce que sont nos corps, en fait, c'est vraiment un ensemble de facteurs culturels, sociaux, historiques, qui techniques aussi, qui vont traverser et construire, en fait, de l'intérieur, si je puis dire, les corps que nous exposons dans l'espace public.
Alors, je voudrais vous faire écouter une archive qui date de 1972 de l'ORTFM et qui nous raconte toutes les techniques de bronzage utilisé à l'époque pour parfaire son bronzage, et elles sont plutôt nombreuses.
Pour bronzer, les techniques les plus extravagantes sont exploitées. On fait même appel aux méthodes artificielles telles que la rampe solaire.
Eh bien, lorsque je vais au soleil et à la première fois, je prends souvent des coups de soleil. Alors là, en faisant ce bronzage qui est progressif, ça me permet d'avoir un petit ton. Et lorsque je vais au soleil, j'ai ma peau qui est déjà préparée par les ultraviolets et je bronze très facilement sans problème.
Aujourd'hui, tout épiderme blanc est proscrit. Et pour brunir, l'on se servira volontiers de mélanges savants d'huile de coco, graisse de vache, jus de carotte, vinaigre même.
Marie-Alette Richard, on l'entend dans ce reportage, bon, je rappelle, 1972 quand même, mais l'utilisation par exemple du bronzage artificiel des solariums qui ont depuis été déconseillés, vivement déconseillés par l'Organisation mondiale de la santé.
Tout à fait, parce qu'on a montré clairement que les cabines solaires qui sont ouvertes au grand public sont à l'origine de cancers de la peau et notamment de mélanome. Donc il y a véritablement un problème vis-à-vis de ces structures qui ne sont pas médicalement contrôlées, parce que les lampes qui sont dans ces instituts ne sont pas des outils médicaux. Donc leur contrôle reste très limité. Et moi, je voulais simplement insister sur le fait que cette notion de préparation au bronzage qu'on entendait dans votre reportage, c'est en fait une très belle trouvaille de marketing. Mais elle recouvre des procédés qui sont dangereux. Parce que moi, je dis toujours, prendre l'apéritif, ça permet pas de boire plus ou moins de vin. Et la cigarette du matin n'évite pas celle de la journée. Donc je pense qu'il faut être extrêmement pragmatique et prudent. Et de dire que finalement, quand on prend le soleil dans un institut en cabine, c'est simplement effectivement à titre esthétique et puis pas du tout dans le sens de se protéger de quelque chose. Je pense qu'il faut être vraiment très clair là-dessus, c'est un message important.
Bon, alors en dehors du soleil en cabine, prendre le vrai soleil peut quand même avoir des effets bénéfiques sur la santé.
Totalement, totalement. Nous avons besoin du soleil au quotidien, puisque, je le rappelle tout simplement, en dehors de la production de chaleur, du fait que ça réchauffe nos vieux os, les ultraviolets ont un effet important sur la synthèse de vitamine D. Et on a tous bien entendu l'importance que prenait, à tort ou à raison, on va dire, le bon dosage de vitamine D dans notre corps, puisque, en fait, la peau est à l'origine de la première étape de la synthèse de la vitamine D, par la transformation donc d'une molécule qui est le 7-déhydrocholestérol, qui est une provitamine D, qui va être la première étape de la production de vitamine D par l'organisme.
Et à quoi nous sert cette vitamine D ? À quoi nous sert cette vitamine D ?
La vitamine D, c'est déjà ce qui nous permet de structurer nos os. Quand les enfants n'ont pas assez de vitamine D, on parle de rachitisme. Quand on n'a pas assez de vitamine D, quand on est adulte, on a un autre terme qui s'appelle l'ostéomalacie. Mais clairement, la vitamine D, au moins à la base, c'est l'essence essentielle de la fabrication osseuse et de la fixation du calcium dans notre organisme. Après, on a beaucoup travaillé sur les relations vitamine D, prévention de certains cancers. On a même parlé de la place de la vitamine D dans la pandémie Covid. C'est des choses qui restent encore discutables parce que s'il n'y a pas forcément un lien de causalité, mais clairement la vitamine D, c'est l'os. C'est notre solidité.
Et ça peut également soigner des maladies. Les UVB, par exemple, totalement, peuvent lutter contre totalement le psoriasisme ou l'eczéma. Les UVC peuvent être utilisés en tant que germicides et les UVA aideraient à lutter contre la myopie.
Alors, Nous avons besoin, et moi c'est même un cri d'alerte, d'avoir des cabines médicales à ultraviolet pour effectivement un traitement qu'on appelle la photothérapie, en utilisant des UVB qui sont avec des lampes très rigoureusement contrôlées, avec une toute petite partie du spectre d'ailleurs des UVB, pour soigner non seulement des maladies inflammatoires comme vous le signalez, mais aussi des cancers de la peau, des lymphomes en particulier, parce que les ultraviolets ont un effet qui est au-delà des effets anti-inflammatoires aussi, un effet intéressant sur la modulation de l'immunité en général. Donc des effets thérapeutiques très importants. Les UVC, ça n'arrive pas sur la Terre, donc les UVC qui sont produits par des sources artificielles, on a un effet bactéricide effectivement, mais heureusement, si on en avait qui nous tombaient sur la tête, je pense qu'on serait tous déjà en train de mourir de cancer de la peau catastrophique, parce que c'est les plus grands carcinogènes qui existent au monde. Et les UVA ont beaucoup de propriétés, et aussi des propriétés thérapeutiques aussi, puisqu'on fait de la photothérapie UVA également pour d'autres maladies de peau. Donc pour nous, c'est un instrument précieux parce que paradoxalement, effectivement, on se bat en disant toute la journée ça donne des cancers de la peau, mais lorsque c'est utilisé de façon médicale, en calculant les doses et en jouant justement sur les puissances qu'on utilise, c'est un outil thérapeutique majeur.
Oui, et puis pour ne pas faire de généralité, on peut aussi en bénéficier sans traitement médical en étant prudent et en sortant dans la rue avec ce qu'il faut quand il le faut.
Bien sûr. Bien sûr, je pense que c'est comme tout, c'est une question d'excès ou de non-excès. Je veux dire, je pense que comme tout le monde, on est content d'aller boire un verre en terrasse, de profiter des beaux jours. Ce qui est toujours excessif, c'est d'emmener ses enfants à la plage à partir de 7h du matin et de repartir à 17h le soir en voyant toute la famille rouge carmin parce qu'elle elle a pris trop de soleil. Et donc c'est simplement une question de bon dosage, bien entendu. Parce le soleil est indispensable à la vie.
Le docteur Richard a prononcé le mot de rachitisme qui était très proche du mot tuberculose à cette époque-là, et qui explique tout un mouvement qui a soutenu en fait le bronzage même sans le vouloir, qui est le mouvement des écoles en plein air, de l'éducation par le sport. Évidemment, le développement du sport amène à se dénuder quand même, sans parler des loisirs, avant même les congés payés, parce qu'on a souvent dit, oui, le bronzage c'est lié aux congés payés, ou c'est lié à Coco Chanel, il y avait la version populiste, ou il y avait la version élitiste. En fait, c'est plutôt du côté de l'exercice physique en général que ça se passe, et du discours médical. Et c'est vrai qu'il y a du marketing, le mot a été prononcé, mais dès le début, les premières crèmes bronzantes, qui sont d'ailleurs des huiles, 1927 en France, un cocorico, c'est la première huile bronzante de l'histoire de l'humanité, on dit bien que ça permet de lutter contre les coups de soleil et de diminuer la mauvaise influence du soleil. Bon, c'est assez largement inexact avec nos connaissances d'aujourd'hui, mais ça montre bien qu'on a tout de suite le discours inverse qui compense.
Qu'il faut s'en méfier. On répond à toutes vos questions aujourd'hui dans Grand Bien Vous Fasse. Toutes les questions qu'on peut se poser sur le soleil, elles sont nombreuses. 01 45 24 7000. Vous pouvez également intervenir sur l'appli de France Inter, sur la page Facebook de l'émission. On se retrouve juste après cette chanson pour parler des crèmes et de leur efficacité. Musique.
Notre joie. Musique.
Est-ce bien la peine de présenter France Gall ? La chanson s'appelle Musique et il est 10h27.
Cette crème solaire vous protégera.
Grand bien vous fasse.
Alors, plage artificielle, bord de l'eau, tonnelle, champêtre, qui bronzera le mieux ? La compétition est ouverte, mesdames. À vous de jouer.
Sur France Inter.
Trois invités pour parler des bienfaits et des méfaits du soleil ce matin. La dermatologue Marie-Alette Richard, la professeure de philo Aïda Ndiaye et l'historien Pascal Horry. C'est vrai que quand on parle du soleil, on évoque ses bienfaits et ses méfaits. Aïda, il y a toujours une forme d'ambivalence avec cet astre.
Oui, bah c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'allégorie de la caverne. En effet, le soleil est à la fois ce qui aveugle, hein, ce qui brûle les yeux du prisonnier qui sort, et en même temps, bah, ce qui est la condition en fait nécessaire de toute connaissance, puisque pour voir, il faut avoir la lumière du soleil. Donc effectivement, ça, je trouve que ça. Ça raconte quand même assez bien, là encore, l'ambivalence de notre rapport au corps, de notre rapport à la nature, à la liberté aussi, parce que tout ce qu'on a dit sur le lien entre être au soleil et être en plein air, et là, je pense qu'on le sent particulièrement avec la réouverture des terrasses à l'arrivée de l'été, on a tous envie d'être dehors au soleil, et je pense qu'il y a cette idée quand même qui associe le fait d'être au soleil avec une espèce de jouissance du corps libre à l'extérieur. Et en même temps, eh bien, tout ce qu'on a dit aussi sur le fait que il fallait le faire avec précaution, qu'il faut faire attention et que ça peut être dangereux. Donc c'est cette espèce d'aller-venue aussi sur la norme du bronzage, par exemple, ça nous dit aussi ce que ça peut avoir de paradoxal et d'ambivalent.
Pascal Horry, est-ce que c'est parce que on se méfie du soleil que l'homme est resté blanc comme un cachet d'aspirine pendant quasiment 2000 ans ?
Pas tout à fait. Disons que déjà notre discussion concerne les populations à peau claire, hein, parce que effectivement, dans d'autres populations à peau plus sombre, la hiérarchie sociale entérine le fait qu'on a intérêt à être le plus clair possible parmi les sombres. Hein, et c'est toujours vrai assez largement dans les Antilles, en Afrique subsaharienne. C'est un peu différent d'ailleurs en Extrême-Orient, qui se rapprocherait quand même de ce cas. Mais là, on parle plutôt de l'Occident, qui d'ailleurs domine le monde il y a 100 ans. Et clairement, la distinction sociale, elle passe par la clarté jusqu'à ce que, ça a d'ailleurs été évoqué par Madame Ndiaye tout à l'heure, jusqu'à ce que la référence soit désormais non plus la campagne, où le plouc attrape des coups de soleil, et qu'évidemment, non pas derrière le dominant, mais la femme du dominant, qui est un peu en stock et qui est exhibée, se protège, voilette sur voilette, capeline, tout ce qu'on veut. Et puis là, maintenant, la référence, c'est la ville, c'est l'ouvrier, c'est l'employé, cachet d'aspirine, et on va se distinguer aussi comme ça. Mais indépendamment de cette lecture presque ultra-sociologique, il y a le fait qu'il y a une libération corporelle et une libération de la femme, parce que, comme on l'a compris, ça se passe d'abord sur le terrain de la peau de la femme.
On va revenir à cette question sur franceinter.fr. De nombreux messages très concrets nous arrivent, des questions aussi. Ghislaine qui nous dit qu'en est-il des auto-bronzants, ne sont-ils pas néfastes pour les peaux claires ? Paola qui s'intéresse à cette question des enfants. Bonjour, je voudrais demander à vos experts comment protéger les enfants de 0 à 3 ans et quel est votre avis sur les crèmes solaires qui contiennent visiblement beaucoup de substances nocives. Peut-être que Marie-Alette Richard, vous qui êtes dermatologue, vous pouvez répondre à ces questions.
Alors, l'auto-bronzant n'est pas du tout quelque chose qui protège du soleil, c'est un oxydateur de la kératine. Donc, c'est simplement un processus chimique qui permet d'avoir la peau un peu orangée jaune et quelque part qui donne l'aspect d'être pigmenté. Mais ça n'a aucun effet protecteur et ça n'agit pas sur la synthèse de mélanine. Ça, c'est un premier point. Ce n'est pas dangereux pour autant. Donc, c'est juste un trompe-l'œil, on va dire. Pour les enfants, la meilleure protection, je suis sincère et désolée de dire que c'est de ne pas mettre les enfants en bas âge au soleil aux heures les plus chaudes de la journée. On ne doit pas mettre un enfant dehors à la plage ou même en extérieur quand il y a beaucoup de soleil entre 11h et 16h solaires. C'est une aberration. Pour le reste, on les protège largement. Le mieux, c'est avec des moyens physiques, c'est-à-dire le chapeau, des lunettes et des vêtements couvrants qui auront toujours un indice de protection solaire meilleur que n'importe quelle crème. Je donne toujours l'exemple de dire qu'un blue jean, alors c'est sûr que c'est pas toujours très simple à porter en plein été, c'est un indice de protection solaire de 200. Versus une crème solaire
enfin,
de protection
sur la table,
extrême,
c'est pas...
50.
Le blue jean sur le sable, c'est pas terrible.
Sur le sable, c'est pas génial. Non, mais des vêtements couvrants, l'un, des choses comme ça, ça peut tout à fait être utile.
Mais ça pose aussi...
Et le message important aussi, c'est que sous le parasol, on prend des coups de soleil. Ça protège pas.
Un parasol ne protège pas.
Non, parce qu'en fait, vous avez une grande partie du soleil qui va être, malgré tout, sous le parasol, réfléchi. C'est-à-dire qu'il va rebondir sur le sable et va revenir sur votre peau. Et ça n'a rien à voir avec le parasol qui vous protège par-dessus. Donc il ne faut pas penser que le parasol, ça aide pour tout, loin de là. Et en ce qui concerne les crèmes solaires, elles doivent être utilisées, bien entendu, parce que c'est un outil parmi d'autres. Mais je rappelle que les crèmes solaires ont été commercialisées pour protéger des coups de soleil. Et qu'il ne faut pas les dévoyer en disant « je vais en mettre pour pouvoir rester plus longtemps dehors au soleil ». Et que leur usage en pratique et en vie courante n'est pas du tout celui qui est recommandé lorsqu'on a mesuré justement leur capacité de protection.
Oui,
on pourra y revenir si vous voulez.
On peut même y aller avec ce fameux indice de protection.
Ouais,
allez-y.
Oui, alors les indices de protection sont calculés dans des conditions expérimentales. C'est-à-dire qu'on va vous mettre 2 mg de crème par centimètre carré pour pouvoir calculer le coefficient protecteur que va vous apporter une crème solaire. Ça, c'est standardisé. Dans la vraie vie, et ça a été démontré de multiples manières, il suffit d'interroger nos patients, au lieu de mettre 2 mg par centimètre carré, ce qui est attendu, la quantité moyenne utilisée, c'est de l'ordre de un quart, même pas, de cette dose qui est considérée comme protectrice. Et c'est comme ça que vous retrouvez à demander quelle est la durée de vie moyenne d'un tube de crème de protection solaire pour la famille pour l'été. Ils en achètent un, éventuellement, pendant les vacances pour toute la famille. Alors qu'il en faudrait un tous les 3 ou 4 jours pour protéger une personne, pour qu'il soit efficace.
C'est-à-dire que s'il faut appliquer 2 mg de crème par centimètre carré, comme vous nous l'expliquez, ça veut dire qu'en gros, pour le corps entier, il faut utiliser un tiers du tube.
Oui, exactement. Dites-moi que vous faites ça. Pour une seule personne.
Pour une seule personne et en fonction aussi du temps d'exposition au soleil, puisque les fameux indices de protection retardent finalement l'apparition du coup de soleil. Par exemple, un indice 20 retardera de 10 fois le temps passé au soleil. Donc 20 x 10, 200 minutes, on dit qu'on mettra 3 heures pour avoir un coup de soleil avec une crème indice 20, là où normalement ça ne nous prendrait que 10 minutes. Hein, c'est à peu près ça.
C'est bien raconté. C'est ça, c'est à peu près ça. Donc, si vous voulez, on a des crèmes qui sont protectrices, mais les conditions d'usage dans la vraie vie ne sont pas celles qui ont permis de mesurer leur capacité de protection. Et c'est un élément fort, est un message fort, parce que c'est très contraignant de mettre de la crème solaire. Pour autant, ça poisse, ça pique, quand ça coule dans les yeux, ça brûle, ça tache les vêtements. Donc, on est toujours en dessous de ce qu'on doit pouvoir espérer avoir comme véritable effet protecteur de ces crèmes, qui pour autant sont importantes. Je le dis pas, mais c'est pas l'alibi pour permettre de mal se comporter ou de rester plus longtemps au soleil. Je pense que ça c'est très important.
Et l'écran total.
Regardez les sorties de plage.
L'écran total n'existe pas. Il faut le préciser aussi.
Non. Oui.
C'est une dérive marketing.
C'est une dérive marketing. On a des crèmes de protection solaire extrême et ces coefficients de mesure de protection solaire sont standardisés. Ce sont des normes européennes et on n'a pas le droit d'utiliser justement la dénomination écran total. Au plus, on peut parler de crèmes 50+, qui permettent, parce que là encore, la capacité de couverture, puisque par définition, elle dépend aussi de la façon dont on utilise, ne peut pas être standardisée. Donc on tourne un peu en rond.
Nous sommes au téléphone avec Nathalie au 01 45 24 7000. Bonjour Nathalie.
Bonjour France Inter et merci de vos émissions.
Merci à vous de nous écouter. On les fait pour vous. Vous vouliez intervenir Nathalie?
En fait moi le soleil, j'ai l'impression d'être une momie et on m'a souvent traité de momie sur la plage parce que je suis en pantalon long, manches longues, écran total, des étoiles parce que le moindre centimètre exposé est douloureux comme s'il y avait des milliers d'aiguilles. Bon, je suis très pâle de peau. Bon, j'ai des problèmes de vue. Alors, on m'a dit que ça n'avait rien à voir, mais en gros, j'ai pas beaucoup de mélanine pour accepter le soleil. Et du coup, je me prive également de ses bienfaits quant aux vitamines, etc. Parce que je peux même pas dire je reste dans un jardin ou autre, parce qu'au travers d'une feuille, s'il y a un petit trou, eh ben, il est pour moi. Voilà.
Donc vous vous protégez comment du coup? À chaque fois vous sortez momifié comme vous le dites?
Je sors habillée, chapeautée et je ne m'expose pas, je sors par nécessité, mais le plaisir soleil pour moi n'existe pas. Alors la plage ça n'existe pas non plus.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Donc vous n'allez jamais à la plage?
Disons que je n'y vais plus parce que pour moi c'est une souffrance. Parce que les crèmes après exposition, etc., ne suffisent pas. J'ai l'impression que j'ai été brûlée, comme des fois on le fait avec la grille du four ou le fer à repasser, mais sur tout le corps, et j'ai plein de petites cloques.
Eh bien, je vous remercie pour votre témoignage. Merci d'avoir appelé Nathalie, le 01 45 24 7000. Bonne journée. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de soleil, donc ça devrait aller.
C'est royal, là, j'adore.
Bonne journée à vous, merci de nous avoir appelé. Et puis sur franceinter.fr, ces témoignages qui continuent de nous arriver. Claire nous dit que pensez-vous des t-shirts anti-UV? Maria nous demande pourquoi le soleil marque-t-il le visage par des taches brunes chez les femmes vers 50 ans? Y a-t-il un remède? Estelle nous dit quid des gélules solaires? Alice est enceinte, elle se demande si elle peut bronzer sans prendre des coups de soleil. Et puis enfin cet autre message, toutes ces questions sont pour vous, hein, Marie-Alette Richard. Mais ce message de Julie qui nous dit « Les taches blanches sur le corps signifient-elles que notre capital soleil est épuisé ?» Car oui, nous avons un capital soleil, il existe, mais il s'épuise et ça ne se reconstitue pas.
Alors, effectivement, le capital solaire, d'abord, il est individuel, donc chacun a son propre permis à points, hein, comme on dit. Et clairement, ce qui a été détruit ne reviendra pas. Parce qu'il faut comprendre qu'en amont, l'organisme et la peau en elle-même a déjà assuré un énorme travail au fur et à mesure des expositions solaires de toute une vie pour essayer de réparer tout ça. À l'échelon de la peau en elle-même, à l'échelon des cellules, à l'échelon des molécules, puisqu'on a des enzymes qui permettent de réparer continuellement l'ADN qui est lésé tout le temps. À partir du moment où on se met au soleil, l'ADN de notre peau va être abîmé. Et on a donc des systèmes de réparation naturels qui marchent tout le temps, et suivant les gens, suivant la quantité totale d'exposition solaire d'une vie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas ce qui s'est passé il y a 3 mois, 6 mois ou 1 an qui va vous faire mal à terme. C'est votre vie entière. Et rappelez-vous que les enfants et les adolescents sont ceux qui sont le plus exposés au soleil, que 70% de l'ensemble de l'exposition solaire d'une vie c'est fait pendant l'enfance et l'adolescence. Et qu'à un moment donné, tout ça déborde parce qu'on n'arrive plus à réparer. Donc plus on gagne de l'âge, entre guillemets, plus on va avoir des conséquences directes, effectivement, du fait que la peau n'est plus capable de réparer correctement ce qui se passe quand il y a des agressions solaires. Elle va se tacher, c'est un élément de vieillissement de la peau qui est lié au soleil. Et on le voit très bien parce que quand on regarde la peau sur les zones exposées, elle se tache, alors que les zones qui sont naturellement protégées, comme les fesses ou la face interne des bras, qui est l'indicateur d'une peau qui est normalement protégée, ne veut pas avoir le même développement de taches. C'est aussi créer, effectivement, des cancers de la peau qui sont là simplement parce que là encore, la capacité de réparation de l'ADN qui est mutagène a débordé. Et donc tout ceci fait qu'au fur et à mesure du temps, il faut être de plus en plus vigilant. Et en fait, il faut préparer, entre guillemets, sa vieillesse à partir de très tôt dans sa vie et de se dire que je ne peux pas abuser. Parce que, comme vous le disiez, j'ai un capital solaire qui est individuel parce que chacun a sa pigmentation, a sa capacité de réparation et que ça, on ne peut pas l'échanger avec les autres et ça ne s'achète pas en magasin. Hein,
mais pratiquement, s'il fallait donner quand même 2 conseils pour pouvoir malgré tout jouir du soleil, parce que c'est un plaisir aussi d'être sous le soleil.
Bien sûr. Mais en fait, c'est une question de quantité raisonnable. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 12 heures dehors, on peut tout à fait se permettre d'y passer 3 ou 4 heures, et effectivement d'utiliser en particulier pour les enfants, parce que les adolescents, on ne peut pas les gérer, on est bien d'accord, mais les enfants, des moyens de protection physique, et mieux que la crème, c'est quand même, et je suis une fervente des t-shirts de protection anti-UV, parce que ce sont des systèmes qui marchent. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, bien sûr que ça fonctionne très bien. Bien entendu. Et ça, vous pouvez le faire admettre à des enfants, mais pas des plus grands, ça c'est clair. Donc il y a un âge pour tout. Donc c'est une question de raisonnable, de quantité et d'exposition en même temps, de protection qualitative avec les bons outils. Les bons outils, c'est jamais oublier de se protéger les yeux, c'est de mettre un petit chapeau pour les enfants et de mettre des vêtements de protection. Et ce sera toujours mieux que la crème solaire.
Lui, c'est notre soleil à nous, Baptiste Beaulieu, 10h41 sur France Inter. C'est l'heure de la chronique de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Et oui, c'est un Thomas. Hommage que vous voulez rendre aujourd'hui, Baptiste.
Oui, bah, évidemment, vous savez, c'est la dernière chronique de l'année et 1 million d'événements sont arrivés cette année. Je savais pas trop comment fédérer toutes les émotions qui m'ont traversé au cours des 9 derniers mois, ni comment arriver à synthétiser en quelques mots ce que la crise sanitaire, il faut le dire, a pu ébranler en nous de confiance ou de foi en l'humanité. C'est peu de le dire. Je savais pas comment m'y prendre jusqu'à ce qu'une fidèle lectrice de mes romans, Magali, attire mon attention sur le décès tout récent d'une femme, Pierrette Baquet. Une consœur médecin à la vie extraordinaire, un petit soleil en soi, et qui est partie comme elle a vécu, sans faire de bruit. Et ça me peine un peu, Thomas, parce que quand on tape son nom, on ne trouve que des avis de décès, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire sur cette personnalité toulousaine. Donc voilà, venez avec moi, Thomas, j'ai une petite histoire de soignante à raconter, ou une histoire de petite soignante plutôt, puisque même à 20 ans, Pierrette ne mesurait pas 1m55 ou tout juste. Elle nous a quittés, elle avait 84 ans. Elle était médecin anesthésiste au service de chirurgie infantile du CHU de Purpan à Toulouse. Elle a contribué à sauver des centaines de petites vies qui ont pu devenir grandes, très grandes, grâce à elle. Et une des raisons pour laquelle je veux parler de cette consoeur aussi, c'est parce que c'était une femme formidable et je veux laisser une petite trace de son passage sur Terre. Oui, elle n'a pas eu d'enfant, Pierrette, il n'y a pas eu d'homme dans sa vie et les 2 demandes d'adoption qu'elle a faites lui ont été refusées. Allez savoir pourquoi, c'est souvent le cas avec les femmes célibataires et c'est toujours aussi injuste à l'époque comme aujourd'hui. Pas d'enfant donc, mais elle a pris soin de ceux des autres, Pierrette, ceux de ses amis dont j'ai recueilli le témoignage. Elle s'est occupée de moi quand j'étais enfant, dit l'un d'entre eux, et quand j'ai eu des enfants, elle s'est occupée d'eux aussi. Elle était une grand-mère de plus pour eux, un cadeau du ciel tout en gentillesse et en douceur. Elle a pris aussi soin de ceux fragiles qui ont séjourné à l'hôpital de Toulouse pour de lourdes opérations. Ailleurs, également en mission humanitaire, des missions humanitaires nombreuses, il y a tous ces enfants qu'elle a endormis pendant qu'on opérait leur fente palatine. Vous savez ce qu'on appelle les becs de lièvre, pour leur redonner un sourire. Et aussi ceux à qui elle a offert par ses dons une scolarité aux Philippines en les parrainant toute sa vie. Donc pas d'enfants, oui c'est vrai, pas d'enfants, Pierrette. Mais sa vie vouée à donner un avenir meilleur à ceux des autres, tous les autres, ici ou ailleurs. Et je voulais vous parler un petit peu d'elle, je voulais partager avec vous son existence qui est une existence impeccable, son parcours courageux, silencieux, sans médaille, sans prime, dont le souci était de toujours faire au mieux pour autrui. Et j'ai un infini respect pour elle, un infini respect pour toutes celles et tous ceux qui, comme elle, donnent un d'eux à chaque jour pour prendre soin des autres. C'était une petite femme immense, le docteur Pierrette Baquet, qui n'avait pas oublié cette injonction sublime de Sénèque « Tant que nous sommes des hommes, pratiquons l'humanité ». Donc que la terre te soit légère, immense Pierrette, et merci pour tout, à toi et à tous les soignants, merci, merci et merci.
Ben merci Pierrette et merci à vous Baptiste Beaulieu. Alors voilà, votre chronique est à retrouver sur le site de France Inter à la page Grand Bien vous fasse. On s'intéresse au soleil aujourd'hui, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez au 01 45 24 7000. Dans quelques instants, on se demandera comment nous sommes passés des corps d'albâtre au teint hâlé. Comment expliquer que la blancheur qui a été pendant presque 2000 ans le canon de la beauté en Occident ait fini par disparaître au profit du bronzage. Ce sera juste après ça.
Je suis jamais à l'aise dans les cocktails, la foule des villes à gravité. La musique m'emmène loin du bordel, le feu de Johnny Hallyday. Rien ne serait pareil sans toi, pourquoi t'as peur que je t'oublie? Je pourrais croiser des centaines d'entre elles, les yeux bandés, je t'en trouverai quand même. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut t'arriver. Le rien n'est grave. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. Juste au cas où, si t'étais seul, t'aurais dû m'appeler. Tout peut t'arriver. Thank you.
J'arrive pas à descendre. Le stress m'étrangle. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. Et le diable serait comblé. Sentiment étrange. C'est comme si on dispersait mes cendres. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. La fin de la prophétie se complète. J'arrive pas à descendre. Le stress m'étrangle. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. Et le diable sourit comblé. Sentiment étrange. C'est comme si on dispersait mes cendres. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. La fin de la prophétie se complète. Qu'on va passer ensemble, c'est cool, on vit tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut t'arriver, le rien n'est grave. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite. Tant que tu m'aimes, comment on fait pour profiter? Tout peut t'arriver.
TPA, tout peut arriver, c'est signé Roméo Elvis et vous pouvez retrouver toute la programmation musicale sur le site de France Inter. Il est 10h47.
France Inter. Grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. À la plage, parents et enfants vivent sur un pied d'égalité. Ceux-ci jouissent d'une indépendance presque complète et les parents se sentent tellement rajeunis. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois.
On s'intéresse donc au soleil, au bronzage ce matin dans Grand Bien vous fasse avec trois invités, la philosophe Aïda Ndiaye, le Marie-Alette Richard qui est dermatologue et Pascal Horry qui est historien, je l'avais dit en début d'émission et vous avez écrit un livre qui s'appelle L'invention du bronzage, c'est d'une histoire culturelle. On pense souvent que le bronzage c'est une mode venue avec les congés payés, on vient d'entendre ce petit extrait qui raconte hein, le début des congés payés en 36. En fait ça commence plus tôt et plus tôt avec une femme.
Oui, disons que les congés payés vont populariser, en France et d'ailleurs dans d'autres pays, mais c'est vrai que, j'allais dire, le grand événement qui a été la mise en scène des congés payés par le Front Populaire a été très, très efficace. C'est aussi un problème de génération, c'est-à-dire que les femmes, puisqu'il s'agit d'abord des femmes qui vont donner le ton, les hommes vont suivre en quelque sorte, les femmes qui se retrouvent
comme
sur
souvent,
la...
Comme souvent, non?
Oui, plus, mais on y reviendra sans doute, alors en disant-le tout de suite, il y a une première lecture qu'il ne faut jamais oublier, alors que c'est généralement celle qu'on oublie, c'est que tout ça est à situer dans l'histoire de l'émancipation des femmes. L'entre-deux-guerres, comme par hasard, c'est le moment où, en ce qui concerne justement le corps des femmes, ça bascule, se couper les cheveux, ce qui commence d'ailleurs pas exactement pendant la guerre de 14, comme on le dit, mais enfin bref, le fait que la jeune femme, par rapport à sa mère qui est scandalisée, la mère qui lit le petit écho de la mode, la jeune femme va lire bientôt Vogue quand elle a les moyens de se payer ce magazine de luxe, ou Marie-Claire, qui apparaît en 1937, justement, le lendemain des congés payés, bon, vont clairement dire que elles veulent libérer de ces entraves le corps féminin standard, donc les cheveux, les jupes, qui raccourcissent, mais ça c'est un peu du mythe. Plus généralement, le début d'une pratique sportive. J'évoquais tout à l'heure, la première huile bronzante, elle est due à un couturier qui se met à faire du parfum, donc une sorte d'équivalent masculin de Coco Chanel, qui est Jean Patou. Et Jean Patou, c'est aussi ce qu'on appellera le sportswear. C'est aussi, je pense que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices connaissent ce nom, Suzanne Lenglen. C'est-à-dire le fait que vous ayez une femme qui, on appelle pas encore ça une égérie, mais c'est l'égérie de Patou, qui montre bien qu'on peut libérer son corps, dans une sorte de chorégraphie du tennis, et d'autre part, qu'on peut tenir tête à des hommes.
Donc le bronzage, pour vous, est lié à une forme de libération. libération de la femme.
C'est quand même une interprétation capitale, puisque ça se passe sur le corps de la femme avant de, j'allais dire, de s'étendre à toutes les autres sortes de corps. Et puis par ailleurs, il y a cette libération de tous les corps qui se traduit, on vient de l'entendre par le son, par congés payés, organisation des loisirs, SIC, un ministère à l'organisation des loisirs. Certains ont dit, oui, l'organisation de la paresse. Il y a quelque chose d'hédoniste dans cette démarche-là, et qui est clairement assumée, aussi bien dans les élites que dans les classes populaires, les auberges de la jeunesse. Après tout, on parlait de marketing, mais après pas tout, vous avez L'Oréal, prononçons le nom parce que c'est dans l'histoire, 1935, ça
qui c'est, invente c'est... la première crème solaire.
Alors, pas la première, oui, l'une. C'est d'abord une huile, c'est aussi une huile, mais plus populaire d'accès que pas tout, réservée à des élites, et testée en 1935, généralisée en 1936. On peut dire qu'il avait senti le courant, ça s'appelle effectivement ambre solaire, et au même moment, d'ailleurs dans la plupart des pays occidentaux, on arrive aux mêmes conclusions.
Ces crèmes solaires aujourd'hui qui polluent l'océan, et justement Hélène nous appelle de Nice. Bonjour Hélène.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez pour témoigner de ce que vous proposez, d'inciter les gens à rester en bonne santé, à faire attention au soleil, à profiter du soleil, mais sans pour autant polluer les océans.
Oui, en effet, on ne peut pas discerner, on va dire, la bonne santé de nous, bipèdes, humains, et des océans qui recouvrent 71% de la planète. Alors nous, moi je représente l'association Terre Bleue, on est basé à Nice, et on commence notre campagne aujourd'hui, donc coïncidence aussi, pour justement inciter les gens. Alors j'ai écouté vos trois prestigieux invités, académiciens, historiens, philosophes, et médecins, et dermatologues, et effectivement je suis d'accord avec eux, et notamment avec la personne, la dermatologue. Il se trouve que 135 milliards de tonnes d'oxygène par an émanent des océans qui absorbent 30% de notre CO2, donc il faut quand même un peu les protéger. Et justement, alors nous, on privilégie plutôt en ce moment le recours à la crème, plutôt après le premier bain, ça évite d'engraisser un peu les eaux des littoraux. On privilégie aussi le chapeau, alors de paille si possible, ou le parasol. J'écoutais ce que le médecin disait. Est-ce que si on met au sol des serviettes, par exemple, est-ce que la réverbération sera aussi forte ou pas? Donc voilà, nous, notre principe, c'est de protéger les humains et les océans et réciproquement, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et de pouvoir permettre cette régénération.
Et comment vous pratiquez demain, voilà. Concrètement, vous vous promenez sur les plages et vous faites passer la bonne parole?
Alors, on essaie, parce que là, ça commence juste aujourd'hui. Bon, Terre Bleue, ça existe à Nice depuis 21 ans, donc bientôt 22, donc on est quand même bien implanté, mais c'est un sans cesse, il faut remettre sur le métier, donc comme le dit la célèbre formule, il faut tout le temps arpenter. Alors là, on cherche justement des volontaires, s'il y en a qui veulent, mais pas que en Méditerranée.
Le message est passé.
Voilà. Et ailleurs, tout le monde est le bienvenu, mais le principe, c'est de sensibiliser, de travailler si possible avec les collectivités qui peuvent aussi aider à communiquer avec des moyens plus importants. Mais surtout, voilà, de dire aux gens, peut-être que les injonctions de la plage telles qu'on les a connues ces dernières décennies, les femmes au sein nu, les corps brûlés, moi je pense que ces injonctions sont finies pour les humains, pour la dermatologie et pour le milieu marin et naturel, donc que ce soit du plancton jusqu'au gros mammifère marin, je pense que tout le monde va y gagner. Donc il faut peut-être faire preuve diminuer les déchets, amener sa gourde, son thermos, son parasol, ses chapeaux, peut-être ses vêtements pour ceux qui en ont vraiment besoin, protéger notre santé et protéger la santé avec un grand S. Et je pense que ces 15 derniers mois nous l'ont, amèrement rappelé.
Merci Hélène pour votre témoignage. Marie-Alette Richard, c'est cette idée en effet de citoyens qui commencent à se mobiliser.
Je la salue parce qu'effectivement c'est une vision beaucoup plus globale de ce que doit être notre comportement vis-à-vis du soleil, c'est-à-dire que on peut pas réduire notre protection solaire à de la crème, et cette prise de conscience de la collectivité du fait que probablement effectivement il y a un sujet, il y a des recherches en cours sur la détection des filtres des écrans solaires dans des espèces de poissons, dans l'altération peut-être des récifs de corail, alerte. Globalement je lui répondre en disant que la serviette sur le sable, c'est bien, sous le parasol. Oui, ça, c'est une bonne idée, puisque ça limite cette façon, le sable est chaud. Donc, c'est une façon de ne pas se brûler la peau non plus. Mais clairement, c'est cette espèce d'attitude citoyenne qui doit prôner des comportements. Et ces comportements, il faut les éduquer à nos enfants. Oui, c'est une approche plus globale et on doit la montrer à nos enfants qui sont les adultes de demain et leur expliquer qu'il n'y a pas que la crème. Et elle est importante, la crème, et c'est toute façon de mise en musique de notre façon de vivre avec le soleil et la nature est importante pour nous, surtout pour eux et pour les générations qui vont représenter après.
Aïda Ndiaye.
Oui, bah effectivement, encore une fois, hein, ce qui me frappe, et je voulais rebondir d'ailleurs sur ce que disait Pascal Horry à ce sujet, c'est à quel point tout ce rapport donc de nos corps au soleil, c'est une indication quand même de notre rapport au corps, au social. Et je pense que la lecture que propose Pascal Horry de dire que le bronzage est une libération, enfin en tout cas s'inscrit dans un mouvement de libération de la femme, lecture optimiste. Moi j'aurais une lecture peut-être un petit peu plus pessimiste qui consiste à dire que si le corps des femmes qui est traversé ou exposé à la question du bronzage, c'est aussi parce que c'est le corps des femmes qui est contrôlé. Et l'auditrice parlait par exemple de la question des seins nus sur les plages. On voit bien qu'encore aujourd'hui, il y a des enjeux de contrôle social. On peut penser aussi aux questions de d'épilation. Une femme qui aujourd'hui s'exposerait au soleil complètement non épilée, je suis pas sûre que... elle s'exposerait pas à cette moquerie. Et voilà, tout ce mouvement du beach body, et puis après du body positive, du coup, on voit bien que c'est toujours et encore le corps des femmes qui fait l'objet de ce type de contrôle, ce qui pourrait expliquer pourquoi est-ce que ça concerne d'abord les femmes. Donc, bien sûr, ça s'inscrit dans un mouvement global de libération progressive, mais je pense qu'on n'a pas encore atteint toute cette libération. Et je voulais aussi ajouter quelque chose, d'ailleurs, sur... les normes sociales, du point de vue aussi, comme l'a évoqué aussi Pascal Horry d'ailleurs, du rapport aux peaux claires et aux peaux foncées. En fait, on sait aussi qu'en Inde, par exemple, il y a des produits pour se blanchir la peau. En fait, donc cette idée que il y aurait une progressive valorisation de la peau foncée, enfin de la peau bronzée, pardon, et que ensuite, en fait, il y aurait, pour des raisons médicales, un retour en arrière. Je pense qu'il faut aussi l'inscrire dans cette question de comment est-ce qu'on valorise plus ou moins la peau bronzée quand c'est une peau blanche, en fait, ce qui n'est pas la même chose que la valorisation ou la dévalorisation des peaux foncées, en tout cas dans certaines cultures, peut-être moins dans la nôtre, mais on sait qu'effectivement, dans certaines cultures, voilà, plus la peau est foncée, plus c'est dévalorisé. Et il y a même une pratique qui s'est développée du black fishing, qui j'avais découvert ça, qui sont les mannequins ou les influenceuses blanches qui se font passer en fait pour noires. Alors c'est pas très clair si elles se font passer pour noires ou si c'est pour vendre des cosmétiques qui justement miment un peu les peaux foncées ou miment un bronzage très très enfin, qui n'est pas justement vraiment un bronzage, qui est plutôt vraiment une peau vraiment foncée. Donc, en tout cas, voilà, je pense que ça s'inscrit dans un contexte.
Beaucoup de questions pour finir cette émission. Il faudra refaire un sujet. Merci à vous trois d'avoir été en direct avec nous. Vous retrouverez demain Ali Rebehi, qui se demandera comment le yoga peut aider le cerveau. Il attend déjà vos réactions et vos postures, chien tête en bas, sur l'appli de France Inter.